Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille pour préparer la draft 2021 sur Touchdown Actu. On va parler Tennessee Titans aujourd'hui et pour m'accompagner Jean-Michel Beaujard. Salut à toi.
Hey, salut Victor, ça va?
Et ça va bien, ça va bien. On a une belle équipe des Titans qui a fait deux très belles saisons, deux qualifications en playoff avec à chaque fois à la clé une victoire de prestige contre Baltimore, une finale de conférence. On a une belle équipe, mais alors il y a des interrogations. Il y en a même beaucoup. Pour une équipe qui a eu tant de résultats, dis-nous quels sont les principaux besoins des Titans à la draft cette année.
Ah ben déjà il leur faut un receveur parce que Corey Davis est parti aux Jets et AJ Brown est fantastique, mais c'est qui joue à côté de lui? Enfin moi quand je regarde l'effectif, je vois pas grand monde, hein, donc il leur faut absolument un receveur. Il leur faut aussi un tackle. On a vu malheureusement le flop Isaiah Wilson qu'ils ont pris l'année dernière. Alors ils ont signé Kendall Lamb, mais est-ce que ça sera suffisant? Je pense qu'il leur faut un cornerback aussi, parce que même s'ils ont fait venir Janoris Jenkins et qu'il y a le jeune Christian Fulton derrière, mais quand même, le poste de cornerback est tellement important. Après, moi je pense que le poste de edge est aussi à considérer. Alors ils ont signé Bud Dupree, ok, c'est très bien Bud Dupree. Et puis Harold Landry est pas mauvais, il a fait 1953 saisons, mais il n'est pas non plus extraordinaire, il est sur sa dernière année de contrat, donc ça vaudrait le coup sans doute de prendre encore un edge. Et puis peut-être un tight end aussi, puisque Jonnu Smith est parti aux Patriots. Alors ils aiment bien des joueurs avec des profils un peu plus bas, ils font beaucoup jouer Swain, ils font beaucoup jouer Firkser, ce sont de bons joueurs, mais peut-être un profil de tight end un petit peu plus élevé serait pas mal.
Eh bien oui, c'est assez complet, et justement pour faire écho à ces besoins, premier tour... Tu nous as choisi un receveur.
Ah ben évidemment, ouais.
Receveur de Minnesota, Rashod Bateman. Évidemment, Alain se fera plaisir en jeu de mots, on lui laissera tout ça, surtout s'il est pris par une équipe de Gotham. Du coup, ici, il prend plutôt la direction du Tennessee. Donc explique-nous, Rashod Bateman, pourquoi tu aimes ce joueur et pourquoi tu le vois complémentaire du coup de AJ Brown.
Parce qu'il est grand, parce qu'il est costaud, parce qu'il est athlétique, il est excellent pour les catchs contestés, il est excellent une fois qu'il a le ballon en main, il défonce le cornerback en fait, c'est vraiment, il a tout du receveur numéro 1 en fait. Alors c'est vrai qu'AJ Brown était un petit peu discriminé comme un slot receveur quand il est sorti d'Ole Miss, et puis on a bien vu en NFL qu'en fait il a tout à fait les épaules pour être un numéro 1. Mais disons que voilà, si tu as un numéro 1 et un numéro 2 avec Brown et Bateman, non seulement ils sont complémentaires, mais en plus là, tu commences à avoir une sérieuse escouade de receveurs.
Oui, surtout que Bateman, il a joué à l'extérieur en 19 et plutôt à l'intérieur en 2020 pour le peu qu'a duré la saison. Enfin, il a prouvé qu'il pouvait faire plusieurs choses. Le seul petit problème, c'est les drops. Ça, c'est un peu la maladie qu'on appelle la agolorite. qui consiste à être très rapide. Une fois que tu as le ballon dans les mains, tu peux faire des choses extraordinaires, mais le problème, c'est que le ballon, il faut qu'il reste dans les mains. Et là, je disais, la stat vient de Pro Football Focus, 19 drops sur 166 passes. C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, et c'est peut-être... C'est la seule chose qui l'empêche, finalement, d'être au niveau des... des Jaden Waddle, etc. Ce manque de fiabilité qui fait qu'il va reculer un peu, et du coup, ça peut en effet faire l'affaire des Titans, puisque on arrive dans des tours de draft où ils peuvent prendre des gens. Moi, j'étais parti sur un edge, parce qu'en effet, Landry, dernière année, Dupree, c'est bien, mais faut pas qu'il soit trop seul. Et on a vu cette année, ils étaient incapables de mettre la main sur le quarterback en face. C'était hallucinant, c'était limite frustrant pour eux. Je regardais les matchs, j'en pouvais plus, tellement le quarterback adverse avait pas de pression. Je me dis, ils arrivent à aller en playoff malgré ça, alors imagine ce qui se passe s'ils mettent la pression sur le quarterback adverse. Et du coup, j'avais pris Aziz Ojulari. Typiquement le genre de joueur qui, pour moi, doit apprendre un an avant d'exploser. Et ça tombe bien. Là, derrière Landry et Dupree, il peut apprendre un an avant d'exploser. C'est un joueur brut. Mais alors, c'est vraiment un potentiel illimité. Aziz Ojulari, c'est un risque. Hein. Il est redshirt sophomore, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, c'est s'il maximise son potentiel, c'est Ngakoue, mais 3.0. Vraiment, moi j'adore ce joueur. C'est toujours, toujours, toujours dangereux. Il peut tout faire, il est rapide, il est agile. Il peut passer par l'extérieur et prendre une marge hein, vraiment à l'extérieur et quand même arriver au quarterback avant qu'il lance la balle. Non, vraiment, c'est un joueur, moi je suis sous le charme.
Oui, oui, ça je sais. Ouais. Depuis le début de la saison, en fait, tu m'en parles de ce joueur. Même quand moi, je n'étais pas super convaincu, mais ensuite, il m'a vraiment convaincu parce que oui, c'est un très, très bon joueur. Il est rapide. Il a même montré des compétences en couverture. C'est un joueur très complet et en plus, il a vraiment une polyvalence par rapport au schéma. Je pense qu'il pourra s'adapter à une 3-4, à une 34, à une 43 aussi. Donc, ouais, très bon joueur aussi, ouais, effectivement.
Ouais, moi, je me dis, tu vois, si dans... Pour l'instant, sauf erreur, c'est à peu près toujours une 34. Donc, l'idée d'avoir un Dupree vraiment pass rusher, et lui, de l'autre côté, capable de faire un peu tout. C'est ça qui me plaisait. Mais toi, du coup, le poste de Edge, tu l'as adressé au second tour. Tu l'as adressé avec un joueur de Washington, opt-out cette année. C'est Joe Tryon. Alors, explique-nous. On l'avait mis en énigme, je crois, dans les podcasts de revue. Position par position, explique-nous comment une énigme se retrouve au second tour.
Ben parce qu'il est très talentueux. Alors ben on va commencer par ça. C'était une énigme en fait parce qu'il a vraiment qu'une seule saison au plus haut niveau. Donc déjà ça pose un petit peu question. Ensuite c'était aussi sur quelle position, quel schéma, parce que voilà c'est un joueur qui est pas suffisamment rapide pour vraiment jouer à l'extérieur, qui est pas suffisamment costaud pour jouer défensive end dans une 43, mais en même temps il a un petit peu les qualités des deux, donc il a une bonne taille, même s'il est pas hyper costaud, il a un premier pas qui est très vif, il joue de façon très agressive, alors il a pas souvent joué en couverture, donc mais en tant que pass rush spécialiste, c'est vraiment un très très bon joueur. Voilà, c'est un petit peu un pari, on l'a pas vu en 2020, mais ce qu'il a montré en 2019, ouais, ça fait peur quand même, hein. Il a des qualités ce gars.
Je suis assez d'accord avec toi, je pense que vraiment ça fait partie des joueurs, selon le coach avec qui il tombe, ça peut être tout ou rien. Et quand tu te retrouves dans une équipe comme les Titans, où le coach principal s'appelle Mike Vrabel, dont certains s'en souviennent, alors il capte même des touchdowns au Super Bowl, pour mes meilleurs souvenirs, évidemment, comme tout le monde sans doute. Mais c'était surtout un excellent défenseur qui peut lui apporter, je pense, beaucoup. Et c'est vrai qu'on pense toujours au coordinateur défensif, mais quand même, quand des head coach sont des anciens joueurs, je pense qu'instinctivement, il y a des positions qui regardent plus que d'autres. Et leur position d'origine, même si ce n'était pas exactement un pass rusher, voilà, mais... La position d'origine, ils vont la regarder. Donc, je pense que ça peut être une très bonne idée. Moi, mon alternative, c'était Daz Newsom. Donc, je fais l'inverse de toi, en fait. Je fais Edge puis receveur. Daz Newsom, qui est de North Carolina, qui, pour moi, peut apporter dans le jeu. Alors, c'est vrai que c'est pas aussi physique que Batman. Hein. Là, on n'est pas sur le même profil physique. On est plutôt sur une petite fusée, menace profonde. Et je pense aussi que ça serait de facto le retourneur numéro 1 de cette équipe. Parce que je pense que c'est Khalif Raymond actuellement, donc ça ne me fait pas rêver. Et je pense que Daz Newsome va être un des meilleurs retourneurs de cette draft. Donc, moi, je prends un pari un peu inverse de toi, c'est vrai, c'est de se dire, prenons un receveur dont plus rapide que physique. Alors que toi, tu as pris un receveur plus physique que rapide, mais c'est vrai que les deux, de toute façon, c'est toujours pareil en NFL. Il y a des profils, mais il faut savoir les utiliser. Donc, c'est deux profils totalement différents dans l'utilisation. Et au troisième tour, tu ne pars pas sur les offensive tackles, malgré, on l'a dit, le flop Isaiah Wilson. Tu pars sur un cornerback. Et alors, décidément, toi, t'aimes les cornerbacks qui sont costauds physiquement, parce que tu nous as parlé de Melifonwu un peu avant. Là, tu vas nous parler d'Israël Mukuamu de South Carolina, qui jouait donc avec Jesse Horn. Explique-nous ce qui te plaît chez ce joueur.
Ben oui, il est grand, il est athlétique, il jouait vraiment cornerback avec South Carolina, mais c'est vrai qu'il a un physique, tu te demandes s'il va pas passer safety, mais en même temps c'est un joueur on dirait qu'il est né pour défendre les Titans, parce que voilà, il a quand même des qualités en couverture, et puis sa taille, son explosivité, et puis après oui, j'aime bien les cornerbacks grands, mais on parle quand même du troisième tour. Hein, je veux dire, c'est pas le plus complet, il a une blessure cette année, voilà, on se pose un peu des questions sur sa position, il a encore du travail technique à faire, mais au troisième tour, c'est un tel potentiel athlétique, et puis voilà, ne serait-ce que pouvoir défendre les Titans en NFL, c'est tellement important qu'au troisième tour, oui, moi je valide tout à fait.
Non, mais c'est évidemment, évidemment un bon choix. Moi, je donnais juste une petite alternative pour ceux qui voulaient justement partir sur offensive tackle. C'est difficile de savoir qui sera disponible au troisième tour. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tackles qui peuvent être pris au deuxième ou au troisième tour selon comment ça se passe. Donc moi, j'ai essayé de jouer la sécurité en prenant notre cher ami Jackson Carman. Donc, qui est un joueur extrêmement mobile pour sa taille. C'est un joueur qui est énorme en jeu de course. En fait, moi, l'idée, c'était de me dire, il me faut un joueur qui peut jouer à droite et il me faut un joueur qui aide Derrick Henry parce que, malgré tout, ça reste la plus grande force de cette équipe. Il n'y a pas beaucoup d'attaques qui vivent et meurent par le running back, mais eux, même si, attention, j'enlève rien à Tanui, j'enlève rien à A.J. Brown, mais quand même, on l'a vu, ne serait-ce qu'à la finale de conférence contre les Chiefs, il y a un moment, si Derrick Henry ne performe pas, c'est souvent la fin des espoirs au très 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 haut niveau. Et du coup, voilà, moi je vois en Carman un potentiel joueur excellent à droite, et je pense qu'il va, il est capable vraiment vraiment d'exploser tout ce qui arrive sur son passage, mais alors tout, hein, c'est un monstre physique. C'est pas le plus... Techniquement, c'est pas le plus affûté. Et je pense pas qu'il sera jamais un grand technicien, honnêtement. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui a pas forcément été autant reconnu qu'il aurait pu l'être. Je pense que à Clemson, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de stars et lui, il en faisait pas partie. C'était un très bon joueur, mais c'était peut-être pas le plus regardé, mais... C'est un joueur qui peut être une bonne valeur au troisième tour.
Oui, effectivement. Ouais. Et il est très puissant. Moi, je pense que s'il jouait à gauche avec Clemson, je pense que son meilleur poste, ce sera quand même à droite. Voilà, en raison de sa puissance et des petites limitations au niveau de la mobilité. Mais au troisième tour, ce serait un très bon tackle, ouais, sans problème.
À chaque fois qu'ils sont puissants, on les voit à droite. Ça, c'est le syndrome Lane Johnson, ça.
Oui.
qui avait été pris au quatrième choix de draft et qui a fait toute sa carrière à droite. Du coup, toi, le poste de tackle, tu l'adresses dans nos slippers.
Oui, c'est ça.
Avec un joueur de Stanford, qui était dans, il y a pas si longtemps, l'université dont on disait qu'elle était la plus NFL ready de tout la FBS. Les choses ont quand même un peu changé depuis. Foster Sarrell. Alors, oui. Explique-nous, je suppose, pour jouer à droite.
Oui. Ben, il joue à droite de toute façon avec Stanford.
Hein. Non, mais c'est ça. Donc, explique-nous pourquoi pour toi c'est le bon profil.
Bah, parce que c'est quand même un bon pari à prendre, parce que Foster Sarrell, je veux dire, il y a 4 ans, c'était un lycéen 5 étoiles. Je veux dire, c'était au niveau des tackles offensifs, il était classé devant tous les autres, devant les Airwood, devant Little, devant tout le monde, quoi. Alors après, voilà, bon, il y a eu une blessure, il y a eu un développement qui ne s'est pas passé exactement comme on l'aurait pensé, donc du coup, c'est un 5 étoiles qui ne sera pas un premier tour ni un deuxième tour de draft cette année. Par contre, ben voilà, en tant que sleeper, je veux dire, genre, tu le prends au sixième tour, c'est quand même quelqu'un qui a un sacré potentiel. Alors pourquoi il ne sera pas pris plus haut? C'est parce qu'il n'est pas si puissant que ça finalement dans son jeu. Il a un bon gabarit, mais il ne joue pas vraiment de façon agressive. Au niveau athlétique, là aussi, il y a des limites. C'est pas un très grand athlète. Donc ça veut dire qu'en NFL, il aura souvent des soucis pour se faire déborder. Mais on parle de quoi là? On parle d'un sleeper, d'un joueur que tu prends au sixième tour. Donc du coup, tu as le temps. Tu as le temps de le faire travailler, tu as le temps qu'il se développe. A priori, sur les deux prochaines années, tu en as besoin, surtout si tu as une blessure ou alors peut-être en cours de match. Donc tu peux aussi prendre ce pari-là et te dire que ce gars-là, qui avait quand même des qualités extraordinaires, avec un bon coaching, il peut se développer et devenir un titulaire en NFL.
Non, tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais juste du coup... Je pense que globalement, on est assez d'accord sur les postes, mais pour varier un peu, moi, en sleeper, j'ai pris un tight end, qui est d'ailleurs historiquement, si je me rappelle bien, le premier sleeper de l'histoire des podcasts draft de cette année sur Touchdown Actu. C'est Matt Bushman de BYU. Donc, décidément, BYU, j'ai mis souvent à l'honneur, mais c'est un joueur qui n'a pas joué cette saison... qui est vieux, parce qu'il a fait ce qu'on appelle chez les Mormons les missions, donc qui prennent plusieurs années, puisque BYU est une université mormone. Et donc voilà, c'est un joueur qui a maximisé son potentiel. Je pense que t'ira pas plus haut. C'est typiquement un joueur qui est moyen plus. Il sera jamais excellent. Mais niveau bloqueur, je trouve que c'est tout à fait correct. Niveau réception, il a des très bonnes mains. Il n'est pas particulièrement lent, il a plutôt une bonne explosivité et je pense que c'est un tight-end numéro 3 qui pourra devenir tight-end numéro 2. Ça ne sera jamais un titulaire, mais alors par contre, ce que j'aime dans ce genre de profil, c'est qu'il y a un plafond qui est du coup assez bas, mais il y a un plancher qui est quand même très haut. On sait à peu près ce qu'on a, il y a quand même peu de chances de se planter sur l'évaluation du joueur et du coup, bah, j'aime bien ces profils un peu rassurants pour solidifier des postes qui ont besoin de profondeur.
Ouais, je te rejoins. Écoute, t'as tout dit sur ce joueur. Hein. Je veux dire, un plafond limité, mais il a déjà un solide plancher. C'est un joueur fiable et je pense qu'on le verra en NFL l'année prochaine. Alors, sur séquence, ça ne sera pas un Titan numéro 1, mais on le verra. Ouais.
Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour nos amis du Tennessee qui espéreront donc une troisième qualification en playoff d'affilée. On va partir... Un peu plus au nord demain, puisqu'on va parler des Indianapolis Colts. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à tous.
Allez, bye.